Alors, je vous invite à prendre dans le prophète Daniel aujourd'hui, qui connaît les grandes prophéties du prophète Daniel. Daniel est le prophète de référence lorsque l'on parle des temps de la fin. Et une multitude de saints et de moins saints ont cherché à comprendre le prophète Daniel, à interpréter sa prophétie, parce qu'elle a lieu à des temps qui seront la fin, lui annonce le Seigneur. Alors, c'est un livre qui vaut la peine vraiment de méditer pour toutes les leçons qui sont données, en fait, à travers la vie, l'exemple même de Daniel, et à travers toutes les prophéties qu'il peut apporter de la part du Seigneur. Mais il y a une précision qui est donnée à Daniel sur la fin de sa prophétie et qui nous rejoint tous parce que c'est ce que nous sommes appelés à être chacun d'entre nous. Mais pourtant, nous voyons qu'il y a ce titre qui est réservé à certains serviteurs de Dieu sous l'Ancienne Alliance, mais aussi dans le Nouveau Testament, et qui est l'appellation bien-aimé. En fait, au chapitre 9, verset 33, verset 22 du prophète Daniel, il y a un ange qui vient pour s'entretenir avec lui et il me dit: « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Et un peu plus loin, cela est répété au chapitre 10, alors que Daniel est en difficulté parce qu'il a passé beaucoup de temps à jeûner, à prier, à chercher Dieu, et la puissance, la grandeur de la révélation qu'il reçoit l'effraie, et il est dans la faiblesse. Alors, un ange encore vient et le touche. Il me secoua mes genoux et mes mains, puis il me dit: « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je tins debout tout tremblant. Il me dit: « Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi: « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit: « Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis: « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Voyons le contexte dans lequel la révélation est apportée à cet homme, à ce prophète Daniel. Daniel était un homme qui se mettait à part pour Dieu. Dès le commencement, dès sa jeunesse, lorsqu'il a été donc enlevé de son pays pour être amené à la cour du roi Nabucodonosor avec ses compagnons, Nabucodonosor avait envahi la Palestine et donc avait fait des prisonniers et il pratiquait les déplacements de population et tout cela. Et donc un certain nombre de jeunes gens avaient été amenés pour servir le roi de Babylone. Des gens éduqués qui avaient certaines qualités. Et dès le départ, Daniel a pris position pour son Dieu avec ses amis lorsqu'ils ont été donc confrontés à la vie qu'il y avait à la cour du roi de Babylone. Et on le voit dans tout son livre où il a servi donc sous plusieurs empereurs de ce temps-là. Eh bien, il est constamment à la recherche de son Dieu. Il est constamment en train de prier. Il est constamment en train de se consacrer à Dieu. Et c'est au terme de tout ce parcours qu'il reçoit ces révélations particulières concernant les temps de la fin. Et où ce n'est pas dans un état, on peut dire, de force qu'il les reçoit. Ce n'est pas quelqu'un qui va se présenter comme étant fort pour supporter la vision et la révélation de Dieu. Non, au contraire, c'est un homme qui est dans la faiblesse. Et en fait, c'est là que Dieu nous trouve. Et c'est là que Dieu peut faire quelque chose avec nous lorsque nous sommes dans un état de faiblesse, mais qui correspond à un amour que nous avons pour lui. Et Daniel correspond vraiment à l'homme qui aime Dieu et qui est reconnu comme tel par Dieu. Parce qu'il s'agit pas seulement de dire « moi j'aime Dieu », il faut encore que l'amour que nous avons pour Dieu soit reconnu par Dieu et que Dieu nous déclare bien-aimés. Et Daniel donc peut être appelé par l'ange qui lui est envoyé, il peut être appelé bien-aimé de Dieu. Sa vie a témoigné de son amour pour Dieu. Sa consécration, ses prières, ses jeûnes, sa fidélité lorsqu'il y a eu des épreuves, eh bien, tout cela a fait que maintenant il peut être appelé bien-aimé. Et c'est à ce bien-aimé que Dieu va pouvoir révéler des choses qu'il ne peut pas révéler à d'autres. Plusieurs reprises, quand il s'agit de choses révélées, il est question qu'elles soient révélées à ceux qui aiment Dieu. Beaucoup de personnes voudraient des révélations, voudraient connaître l'avenir, voudraient anticiper, voudraient interpréter même les Écritures. Mais il faut pour cela être choisi par Dieu et choisi en fonction d'un critère qui est très simple, celui de l'amour véritable que nous avons pour Dieu. Dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà la position dans laquelle Dieu veut nous trouver pour pouvoir nous révéler les choses qui lui appartiennent, les choses qui ne sont pas de ce monde, et les choses qu'il veut, par conséquent, nous révéler pour notre salut. Car tout ce qui a trait à la prophétie biblique concerne le salut que Dieu veut apporter, non seulement aux individus, mais à l'humanité tout entière. Lorsque Jésus parle à ses disciples, au chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » À ceux que Jésus peut définir comme ses amis, il fait connaître ce qu'il a appris de son Père. Proverbe déjà 25, verset 14. Dans ce proverbe, il est question de l'amitié du Seigneur. Fait une erreur de référence, donc c'est pas 25-14, mais c'est pas très, très, très grave, je vais vous le citer. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. À ceux qui craignent Dieu, c'est une autre façon de dire à ceux qui aiment Dieu, ceux qui craignent Dieu et réservent son amitié, et c'est à eux qu'il donne instruction. Dieu se révèle à ceux qui l'aiment. Et le premier d'entre eux, ça a été Abraham. Abraham est le premier à qui Dieu a pu se révéler parce qu'il a trouvé chez lui un amour qui ne s'est pas démenti depuis le moment où il a été appelé jusqu'à l'acte final que Dieu lui a demandé, qui a consacré et scellé cet amour, c'est-à-dire le don de son fils Isaac. L'apôtre Jacques tire instruction de l'exemple d'Abraham, hein, en prenant donc dans son chapitre 2 de l'épître de Jacques, à partir du verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Voilà le premier qui fut appelé ami de Dieu. C'est Abraham, parce qu'une relation s'était établie entre Abraham et Dieu, qui était à l'initiative de Dieu, puisqu'au départ c'est Dieu qui a appelé Abraham et qui lui a dit « Lève-toi, quitte ton pays, ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. » Eh bien, cette relation qui s'est établie avec Abraham l'a amené à une foi parfaite jusqu'à l'acte donc qui a signifié que pour Abraham, tout appartenait à Dieu, c'est-à-dire l'offrande de son fils Isaac. Et cet acte d'Abraham, c'était vraiment l'effet de l'amour de Dieu qui avait choisi Abraham, qui l'avait guidé dans toutes ses étapes, qui l'avait enseigné, qui avait voulu ce moment, en fait, particulier. C'est Dieu qui avait voulu ce moment particulier. Et à partir du moment où Abraham a répondu, présent, où il a dit « Oui, je te fais confiance jusqu'à ce point-là », eh bien, l'amour d'Abraham pour Dieu a été, et l'amour de Dieu pour Abraham a été scellé définitivement à partir du moment où Abraham a accepté cette offrande de son fils Isaac. L'amour était scellé entre Abraham et Dieu, entre Dieu et Abraham, et pouvait alors se manifester tout le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. En fait, c'est là, en fait, la clé de l'amour d'Abraham pour Dieu et de Dieu pour Abraham, c'est qu'à travers cette alliance, eh bien, le salut de l'humanité s'est mis en marche. Abraham est vraiment reconnu comme celui qui a aimé Dieu et que Dieu a pu déclarer comme étant son ami. Lorsque nous voyons dans Néhémie au chapitre 9, versets 7 et 8, ce qui est dit au sujet d'Abraham, tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Guirgasiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Après, donc, le prophète va plus loin et envisage aussi ce que Dieu a fait au sujet du peuple d'Israël. Mais concernant donc Abraham, tu as trouvé son cœur fidèle devant toi et tu fis alliance avec lui. Nous lisons aussi dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Voilà la clé de tout, la clé de toute l'œuvre de Dieu, la clé même de l'existence ensuite d'Israël et du fait qu'Israël a possédé la Palestine, c'est que une alliance avait été scellée entre Dieu et Abraham à cause de l'amour qu'Abraham a manifesté envers Dieu. Donc cet amour, eh bien, Daniel est un de ceux qui l'a partagé. Et il peut être appelé ami de Dieu et il peut lui aussi contribuer à la révélation du salut de Dieu et à la préparation des saints pour les temps de la fin. Et donc, il est dit au sujet de Daniel, hein, qu'à la fin, ceux qui seront dans ce temps-là, chapitre 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » À qui Dieu va pouvoir révéler les mystères, en quelque sorte, du prophète Daniel, si ce n'est à d'autres qui, à la fin des temps, vont avoir pour Dieu le même amour que Daniel avait en son temps, et avoir pour Dieu le même amour qu'Abraham a eu en son temps pour inaugurer le chemin et du salut pour l'humanité. Tous ceux à qui seront révélées les paroles du salut, les paroles qui concernent la fin des temps, ne seront pas ceux qui ont une grande intelligence, une grande capacité intellectuelle, une grande possibilité de, on peut dire, mettre ensemble toutes les paroles et puis trouver la bonne, on peut dire, combinaison de toutes les paroles de Dieu au sujet des temps de la fin. Ce sera à ceux à qui aiment Dieu que seront révélées les choses qui concernent la fin des temps, de sorte qu'ils, tout simplement, ils soient prêts pour cette fin des temps, de sorte qu'ils puissent être employés pour en sauver d'autres, pour que, comme l'apôtre Paul dit, au moins quelques-uns parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait, pour qu'aujourd'hui, ou à la fin de votre parcours, vous soyez passé en quelque sorte du statut, je dirais, de simple croyant, puisque j'espère que vous faites partie de cela, hein, de simple croyant à celui d'ami de Dieu. Hein, quel est ce geste en plus que Dieu vous demande? Quelle est cette obéissance particulière? Quel est ce renoncement dans la foi qui va sceller l'amitié de Dieu pour vous? Dieu nous aime tous, Dieu vous aime tous. Et vous aimez Dieu en retour. Nous aimons tous notre Seigneur en retour de l'amour qu'il a manifesté pour nous. Mais quel est cet acte qui, à un moment donné, va pouvoir sceller cette amitié de Dieu envers vous et de vous envers Dieu? Quel est, comme pour Abraham, Abraham a sacrifié son fils. Pour Moïse, Moïse, à un moment donné, a renoncé à la gloire du gouvernement de l'Égypte à l'époque pour servir auprès du peuple de Dieu. L'apôtre Paul a complètement réorienté toute sa vie et au lieu d'être ce pharisien intransigeant, il est devenu le serviteur de l'Église. Et ainsi de suite, tout au long des siècles. Étienne a prêché l'Évangile au risque de sa vie et il est mort en martyr. À chacun d'entre nous, je crois, Dieu demande un acte particulier. Dieu demande, disons, Dieu nous amène dans sa connaissance et au fur et à mesure que nous marchons avec lui, l'offrande d'Isaac est intervenue plus de 30 ans, 35 ans ou 40 ans même après l'appel d'Abraham. Il y a eu tout un cheminement dans la foi qui a amené Abraham à ce geste particulier. Et pour nous aussi, bien entendu, qu'il y a des étapes, il y a toute une progression. Et régulièrement, au cours de notre vie, il y a des actes de fidélité que Dieu dans lesquels Dieu nous engage. Et s'il nous trouve fidèles, eh bien, il nous amène plus loin jusqu'à ce que, à un moment donné, il nous demande quelque chose qu'il ne va pas demander à d'autres, mais qui va, pour notre part, sceller notre amitié envers Dieu. Et à ce moment-là, si nous répondons présent, eh bien, Dieu va pouvoir non seulement, nous déclarer son ami, mais il va pouvoir aussi étendre son œuvre de salut à d'autres à travers nous, à travers l'engagement que nous aurons eu, à travers la consécration que nous aurons manifestée. Dieu va pouvoir déployer sa grâce avec nous, autour de nous. Certains peuvent véritablement sauver leur famille tout entière par leur offrande au Seigneur, véritablement. Quelqu'un peut avoir comme conséquence de son amitié avec Dieu sa famille tout entière qui appartient au Seigneur et qui entre dans les œuvres de Dieu. Pour d'autres, parce qu'ils auront consacré aussi leur cœur au Seigneur, ils pourront gagner un certain nombre d'amis. D'autres auront une influence dans la société à travers ce que leur consécration au Seigneur. À chacun d'entre nous, à partir du moment où Dieu peut vraiment nous regarder comme son ami, à chacun d'entre nous, il peut donner quelque chose de particulier aussi qui concerne son œuvre de grâce, son œuvre de salut pour le monde. Alors, pour Abraham, l'acte particulier est intervenu à la fin du parcours, mais ce sont aussi des actes qui peuvent intervenir au milieu de notre parcours avec le Seigneur, de notre vie, et, ou alors même comme acte fondateur, le jeune David, comment est-ce qu'il a été identifié comme étant quelqu'un qui avait un cœur tout à fait à Dieu, et qu'ensuite il a été aussi appelé un homme selon le cœur de Dieu, donc un ami de Dieu. Eh bien, c'est le jour où, voyant le géant Goliath provoquer l'armée du Seigneur, il s'est indigné de ce que personne ne défendait l'honneur du Dieu d'Israël à travers donc l'attaque qu'il y avait sur son armée. Et sur ce fondement, David s'est avancé et il a dit « Moi, j'irai ». Et lorsque le géant s'est avancé devant lui, il lui a dit « Ben, toi, tu marches devant moi avec ton épée, ta lance, ton javelot, mais moi, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » Et c'est ainsi que David a terrassé le géant de Goliath par la foi qu'il a manifestée et le désir de défendre dès son jeune âge l'honneur de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a été identifié comme étant quelqu'un qui, ça devait être confirmé par la suite, mais qui avait les dispositions, qui avait le cœur pour devenir un ami de Dieu. Donc, ce n'est pas nécessairement à la fin de notre vie que Dieu nous demandera un acte particulier. On peut très vite se déclarer ami de Dieu et avoir une part particulière à son œuvre. Dieu veut trouver des amis. Il ne veut pas d'abord trouver des soldats, il ne veut pas d'abord trouver des gens pleins de qualité pour faire ses œuvres. Il veut trouver des personnes qui l'aiment, qui lui sont fidèles. C'est ça que Dieu attend. Et là, il va pouvoir révéler sa parole à ceux-là. Il va pouvoir aussi leur donner des capacités particulières pour accomplir ses œuvres. La prière, dès le départ, si nous allons dans les Proverbes, chapitre 15, versets 8 et 9, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Le sacrifice, donc des choses qui sont faites soi-disant pour Dieu. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix des méchants est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Alors, psaume 141, verset 2, si nous pouvions prier de la même manière que le psalmiste, je prends le verset 1, Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Que vraiment nos prières puissent être comme cette offrande qui est apportée à Dieu, cet acte d'amour, d'adoration, qui fait que Dieu peut les accepter, peut y répondre, peut s'engager avec nous par rapport aux prières que nous lui adressons, parce qu'elles sont faites vraiment dans un cœur qui l'aime parfaitement. Être appelé ami de Dieu. Si nous avons un ami, ben c'est quelqu'un qui est à notre niveau. Un serviteur est plus bas, Un ami, c'est exactement l'égalité entre les amis. Si Dieu accepte de nous appeler amis, ça veut dire qu'il nous élève à son niveau. Donc, être appelé ami de Dieu, c'est vraiment entrer dans une nouvelle réalité qui va permettre à Dieu que tout ce qu'il est, lui, va pouvoir nous être communiqué. Toute sa grâce, toute sa vérité, toute sa justice. Nous allons vivre les dimensions de Dieu si nous sommes ses amis. Et c'est bien pour cela que Jésus est venu dans ce monde, pour donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, dit-il, si vous faites ce que je vous commande. Donc, en allant vers Jésus, en écoutant sa parole, en obéissant à sa voix, eh bien, c'est dans le contexte de l'Église la façon dont nous devenons les amis du Seigneur. Je souhaite vraiment que dans les temps qui viennent, le Seigneur puisse révéler ses paroles et en particulier l'interprétation des prophéties, parce que c'est un grand sujet d'interrogation pour les enfants de Dieu, et qu'il puisse trouver parmi nous des enfants, des frères, des sœurs, des jeunes gens qui se consacrent à lui de telle sorte, et qui l'aiment de telle sorte qu'il va pouvoir leur révéler non seulement sa parole telle qu'elle est écrite, mais telle qu'elle doit être comprise pour notre temps et les temps qui viennent. Parce que nous vivons manifestement dans les temps de la fin, où le monde a évolué en petit à petit, rejetant même la notion, en fait, de Dieu, hein, et où, ce faisant, il se prépare aussi à son jugement, puisque de toute façon le monde ne peut pas vivre sans Dieu. Dieu est son créateur et son sauveur, et si le monde veut s'affranchir de Dieu, il se perd tout simplement. Il n'a plus d'avenir. L'humanité n'a pas d'avenir sans Dieu, donc va à son jugement en dehors de la connaissance de son créateur et Seigneur. Alors que dans le temps présent, Dieu puisse trouver des hommes, des femmes, des enfants, des femmes, des hommes, des filles, des garçons, qu'il puisse vraiment sceller, avec qui il puisse sceller son amitié et qu'il puisse ainsi employer pour la révélation de sa vérité concernant les temps de la fin. Et qu'il y ait une grande joie de savoir que à nouveau, il y a de véritables prophètes, pas des gens qui prétendent tout connaître, etc. Hein, pas ces personnes-là. Vous n'avez qu'à simplement frapper sur le net et vous allez des prophètes autoproclamés, vous allez en rencontrer des centaines. Mais c'est pas ce genre de prophète qui m'intéresse moi personnellement, mais qui, je crois, intéresse Dieu. C'est ceux qui vraiment, parce qu'ils sont dans l'amour de Dieu, peuvent recevoir de lui la compréhension de son œuvre pour le salut véritable qui est toujours en Jésus-Christ. D'ailleurs, si quelqu'un donne une prophétie qui n'a rien à voir avec la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, vous pouvez déjà l'écarter tout de suite. Mais voilà, que dans cette connaissance de Jésus-Christ, certains puissent recevoir des pensées plus profondes qui vont guider le peuple de Dieu, déjà l'Église, mais aussi d'autres de ce monde à revenir dans la connaissance de Dieu et se préparer au salut final. Amen.